nationale aux républicains espagnols occultée. L'historique argumenté d'Annie Lacroix-Harry sur le choix de la défaite, que l'on pourrait résumer par plutôt Hitler que le Front populaire, étouffé. Seul le pacte de non-agression germano-soviétique, ressassé à l'envi, permet aux Munichois la transition facile. Nazisme égale communisme. Régis, de Nîmes.
Bonjour à tous, nous sommes la veille de Noël et je voulais dire que je suis très fière d'habiter dans le 20e car les gens qui sont occupés des commerces ont donné l'argent des illuminations au restaurant du cœur. Il y avait 5000 euros qui ont été donnés et qui ont permis aux gens qui n'ont rien de faire un bon repas. Alors je suis fière et en cette soirée, je pense beaucoup à Coluche qui n'avait rien au début, qui a tout donné aussi parce qu'il était pauvre au départ. Je l'ai connu à Montparnasse, il n'avait pas un rond à l'époque. Et je pense aussi à Barbara qui a fait beaucoup pour les gens malheureux. Alors je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut.
Ambroise Croizat, effectivement. Connaissons-nous également le nom de Émile Marsèche ou celui de Émile Romanet? Tiens, c'est une question du jeu des 1000 euros. Qui était donc Émile Romanet? Allez. Ding, ding, ding.
Émile Romanet, un des précurseurs des caisses d'allocation familiales. Ingénieur français, 1873-1962. Oui, mais on a regardé, évidemment, dans le dictionnaire pour répondre à la question de notre AMG. Même si Émile Romanet est contesté à Lorient, on dit, mais pas du tout, c'est pas Émile Romanet qui est l'inventeur ou le précurseur des caisses d'allocation familiale, c'est un certain Émile Marsèche à Lorient. Vous vous demandez un peu de quoi on parle? Eh bien, on parle de ce dont on aurait dû parler beaucoup plus souvent et dont on devrait parler beaucoup plus souvent, c'est notre histoire sociale. Évidemment que les inventeurs des caisses d'allocation familiale, de la sécurité sociale et de toutes ces conquêtes sociales sont des personnages importants, pas tellement par eux-mêmes, mais enfin, c'est des moments de l'histoire que nous devrions connaître davantage, au moins pour défendre ces conquêtes sociales et pour en avoir une notion historique. Aujourd'hui, dans le cadre des nouvelles diffusions de nos meilleurs moments, de la page qui suit de cette année 2011, on continue dans l'histoire sociale française avec l'histoire de la grande grève des mineurs de 1948. C'était en juin dernier, un reportage de Charlotte Perry sur cette histoire extraordinaire, 8 semaines de grève à cette époque, avec une répression policière particulièrement violente, 60 000 hommes qui avaient été envoyés sur les mines, avec 3 000 arrestations à la clé, 375 emprisonnements et des licenciements pour fait de grève, Or, ceux qui ont fait l'objet de ces licenciements pour fait de grève n'ont pas cessé depuis de se battre. Plus de 60 ans de bagarre. Et le 10 mars dernier, le 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles reconnaissait l'illégalité des licenciements pour fait de grève après cette grande grève des mineurs de 1948. Ça concerne 17 familles. Mais, attention, accrochez-vous, l'État a fait un pourvoi en cassation le 23 mai dernier pour ne pas payer ses indemnités. C'est aussi énorme que ça. Voilà où on en est, mais aujourd'hui, on revient donc avec les témoins de l'époque, avec les historiens, avec ce reportage de Charlotte Perry, à cette grande grève de 1948. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Salut Mermet, salut les AMG. Bah écoute, je sais qu'en général, chaque année, tu as un petit pensée pour le 11 novembre, pour tous ceux qui étaient en
c'est pour 18 quelque part dans un trou pourri. Ben moi, pour Noël, en général, j'ai toujours une petite pensée pour tous les fraternisés. Voilà. Bonne Noël à tous. Ciao. C'est Jean-François.
Nous sommes vendredi, dans la nuit de vendredi 23 à samedi 24. C'est déjà samedi, d'ailleurs, puisque minuit est passé. Et je viens d'entendre quelque chose de magnifique, le Jazz Club de France Musique, que malheureusement, j'ai pris en retard. Je me suis laissé passer l'heure. D'habitude, j'y pense, là, et puis... Et alors j'ai entendu, voilà, le bonheur, quoi. C'était un trio. Normalement, ça aurait dû être un quartet. Il devait y avoir une chanteuse, Mélanie Dahan, et puis elle avait un problème de corde vocale. Je suis sûr qu'elle chante très très bien, mais j'ai pas regretté parce que je me suis régalé, quoi. Avec Giovanni Mirabassi au piano, Marc-Michel Le Bévillon à la contrebasse, et le cubain Locmil Pérez à la batterie. Alors je vous raconte ça parce que en ce moment j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup d'émissions de France Musique. C'est-à-dire l'open jazz quand je peux, en fin d'après-midi, le bleu la nuit, le samedi soir, etc. Parce que c'est ça qui m'aide à supporter la vie, quoi, vous voyez. On est tellement aux antipodes des pantalonnades du guignol de service, je veux parler... du triste cire qui fait fonction de président de la République, que ça aide à survivre, quoi. Quand les mots ne veulent plus rien dire, reste la musique, et ce soir elle était de très très haut niveau, donc je vous conseille de réécouter le Jazz Club du vendredi 23 décembre.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre dû.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Les pauvres mineurs... Ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés. Hein, et ils ont contre eux l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Hein. Non mais le rapport des forces est totalement disproportionné. Quoi.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre. Hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi, je dirais.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Charlotte Perry. La grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, il est 9h du matin et on vient d'arriver à Lens, en plein cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la ville où se concentrait autrefois toute l'activité liée à la mine. Là, je me trouve sur le parvis de la gare. Tout est calme, il y a peu de passants. En face de nous, de l'autre côté de la rue, il y a l'Hôtel de France. Un hôtel un peu vieillot, tout en briques rouges, avec des pignons à pas de moineau qui font comme des escaliers qui montent vers le ciel, qui sont très typiques de l'architecture flamande du nord de la France. Si on se retourne de l'autre côté, il y a la gare de Lens. Et derrière la gare, derrière les voies de chemin de fer, on aperçoit toute une chaîne de terri qui se profile à l'horizon. Ces masses noires de résidus de charbon. La plupart de ces terris sont aujourd'hui entièrement recouverts de végétation. On voit même des arbres qui ont poussé par-ci, par-là. Du coup, le paysage est très verdoyant. Et nous, on est venus justement au pied des terris pour rencontrer d'anciens travailleurs des houillères nationales. Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, ont été licenciés voici plus de 60 ans pour avoir participé aux grandes grèves de 1948. Des grèves très dures, qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque et qui ont été réprimées dans le sang. Suite à ces grèves, 3000 mineurs avaient été licenciés, emprisonnés, expulsés de leur logement et bannis des houillères nationales. Et voici quelques mois à peine, la cour d'appel de Versailles vient de rétablir 17 de ces anciens mineurs dans leurs droits en reconnaissant le caractère illégal de ces licenciements. Alors voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, dans cette région lensoise, pour rencontrer Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, et évoquer avec eux cette formidable lutte et cette formidable victoire 60 ans après.
Victoire, victoire, exclamation ou victoire, interrogation? Victoire, exclamation. On vient de le dire, Charlotte vient de le dire. 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles reconnaît enfin l'illégalité et l'illégitimité de ces licenciements suite à cette grève de 1948. La grève est un droit constitutionnel. Ils avaient été 3000 à être licenciés pour fait de grève. Donc, ils sont enfin rétablis dans leurs droits et indemnisés. Victoire, victoire des 17 mineurs ou de leurs ayants droit qui, avec 4 avocats courageux, ont obtenu cette reconnaissance. Victoire, exclamation, au bout de 63 ans et des années de procédure. Exclamation. Mais, fin mai, le 23 mai, l'État, puisque les charbonnages maintenant sont sous la responsabilité de l'État, l'État a fait un pourvoi en cassation. C'est-à-dire que Madame Lagarde, qui est si empressée à indemniser ce pauvre monsieur Tapie de quelques 45 millions d'euros, eh bien là, a demandé un pourvoi en cassation pour l'indemnisation et la reconnaissance de ces mineurs. Donc, victoire avec point d'interrogation. Mais à tous les coups, victoire sur l'oubli, victoire sur le mépris, victoire symbolique et hommage à la mémoire de ces mineurs qui se sont battus à l'époque en 1948 comme ils l'avaient fait en 1947, en 1941 durant la guerre et comme ils le feront en 1963, une grève, celle-là victorieuse, forte de celle de 1948. Vous avez compris, c'est les pages d'histoire sociale qu'on va évoquer, évidemment, avec ceux qui en ont été les protagonistes, les témoins et les acteurs, et qui ont chanté dans les prisons où ils furent enfermés. Certains délégués syndicaux furent enfermés en prison. Ça a été une répression d'une violence inouïe que cette grève de 1948. Le ministre de l'Intérieur, un certain Jules Moc, avait fait venir 60 000 CRS et militaires contre ces 15 000 mineurs en grève. Et donc, lorsqu'ils furent enfermés en prison, ils chantaient une chanson qui disait « Révoltés de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève. Alors ils ont dit oui, leurs droits étaient bien légitimes, inscrits dans la Constitution. Les travailleurs des champs, des villes ont dit mineurs, oui, vous avez raison. » C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
Révoltés de dégoût, de misère, par milliers les grands puits. Les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Leur droit était bien légitime, inscrit dans la Constitution. Les travailleurs des champs des villes ont dit mineurs, oui vous avez raison. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifiques de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tout. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Mais un jour, des troupes mercenaires ont fait une ignoble répression. Assassins, ils ont tué vos frères en jetant des centaines en prison. Oh, vous, parjure couvert de honte, aux mains rougies du sang français, vous traînerez jusqu'à la tombe l'ignominie de vos tristes forfaits.
Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifiques de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Vous, monsieur Amigo, vous habitez ici à Méricourt depuis longtemps ?
Depuis 68, je crois. On ne va pas mal vous le dire parce que moi j'ai une mémoire courte. Moi j'étais mineur, j'étais pas à Méricourt. Je suis venu rester à Méricourt après. Je suis de Nagieter.
D'où ?
Et Nagieter. Comme maintenant c'est à Beaumont. Allez-y, rentrez.
Oh, bonjour madame.
Voilà, Daniel Amigo, l'un de ces mineurs qui a porté plainte et qui fait partie donc de ces victorieux qui portent cette mémoire de la mine et de cette lutte de 1948. Après la guerre, c'est relever les manches et creuser pour le charbon. C'était l'appel du général de Gaulle, mais aussi du Parti communiste, de Maurice Thorez. Il fallait que la France ait toute son indépendance énergétique pour se relever. Alors, mineurs, relevez vos manches et creusez le charbon. Ces mineurs l'ont fait, se sont crevés la paillasse par patriotisme pour relever le pays. Ils étaient assez héroïques, ils étaient vus d'une façon, c'était un peu les héros de cette époque. Mais le vent a tourné en 1947, changement de gouvernement, changement de ton, et changement aussi de salaire, changement d'avantages sociaux, jusqu'à ce que les mineurs se mettent en grève, se lancent à l'appel de la CGT dans une grève, en octobre donc 48, et cette grève a été très 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 durement réprimée, on va nous le raconter. C'était le début de la guerre froide, c'était le début de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, et il y avait cet anticommunisme qui allait se développer, et ce soupçon et cette accusation de communisme, qui était que cette grève, derrière cette grève, il y avait la main de Moscou. Ces grévistes étaient les ennemis de l'intérieur qui préparaient l'arrivée des soviétiques en France. Bref, il fallait s'en défendre, il fallait mobiliser les troupes et toutes les troupes contre ces gens-là. pour la plupart, si certains, indéniablement, de ces grévistes rêvaient du grand soir et d'une fin du capitalisme, sans doute, mais pour la plupart, évidemment, ils luttaient tout simplement pour leurs droits et pour leur pain, et Daniel Amigo en faisait partie.
Là, vous voyez, on a la lettre. C'est la lettre des avocats. J'ai la très grande joie de vous annoncer que la Cour d'appel de Versailles nous a donné raison par un arrêt du 10 mars 2011 que vous trouverez 6 juin en copie. Alors, la Cour a donc estimé que le licenciement intervenu pour fait de grève était nul car discriminatoire. Elle a octroyé la somme de 30 000 euros à chaque mineur ou famille à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme pour les frais d'avocat. Voilà.
C'est bien, puis ça dure trop longtemps. On reste à 7.
Il n'y a plus que 7.
Alors, plus les veuves.
Ouais, mais des mineurs, il y en a 7. Et chaque côté, il ne va plus en rester. Hein. Alors, c'est bien, puis c'est pas bien, puis c'est tout. Hein. Nous, c'est les ouvriers. Vous savez, c'est la même basse classe, c'est tout. Bon, on était mineurs, on a fait grève pour notre pain. Et après, nous a foutu les flics et puis l'armée tout dans la cité, là, avec les mitraillettes et compagnie. Hein,
pour les faire retravailler avec mitraillettes.
Ils disaient que nous, on empêchait les gens d'aller travailler. Il n'y avait personne qui voulait travailler. Hein. La grève, elle était juste. Hein, on réclamait notre dû. Et on jouait aux cartes au soir, vous savez. On ne cherchait pas la bagarre, je vous dis, on jouait aux cartes. Dans la journée, je jouais au boule, dans la cour d'une mine, et nous, au soir, on jouait à carte, on faisait grève, tout le temps. Alors, quand on est au piquet de grève, automatiquement, il n'y a personne qui rentre. Mineur, il ne va pas rentrer. Mais nous, on n'a pas cherché. Qu'est-ce que vous allez faire quand des gens qui ont des mitraillettes?
Alors, vous, à l'époque, en 48, vous aviez quel âge?
21 ans. Alors, moi, j'étais pris, j'étais au piquet de grève, et puis, je rentre chez moi. On me dit, les gendarmes, ils sont venus, il faudrait que tu te présentes devant la gendarmerie. Moi, j'ai rien fait de mal. Je suis parti de la gendarmerie, coiffé.
Prison.
Alors, travail, la liberté de travail, et puis patati, patata. Et ils m'ont embarqué à Béthune. J'ai fait 2 mois de prison à Béthune. J'ai fait appel, j'ai gagné un de plus, 3 mois. Et en plus, 6 000 francs d'amende à l'époque. Le papier est encore là. Hein.
6 000 francs d'amende.
6 000 francs, ça représentait combien par rapport à votre salaire?
Vous vous rendez compte,
48.
Ça faisait une somme, hein. Je faisais au moins 5, 6 salaires de mois. Ouais.
Pas... C'était payé à la quinzaine, mettons une dizaine de quinzaines.
Ouais. Alors plus de travail, plus rien, vous lui payez. Heureusement, je dois vous dire une chose. Nous, j'ai eu un journal qui nous a payé la moitié de la somme.
C'était quel journal?
Liberté. Et depuis, pourtant je ne suis pas carté sur aucun parti, mais j'ai pris toujours Liberté chez moi.
Liberté, c'est le journal du Parti communiste?
De cette région, hein. Je dirais que dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Et eux, ils vous ont aidé à payer vos amendes?
Ils l'ont payé tout de suite.
Oui.
Quand j'ai été libéré, il a fallu que je paye l'amende. Hein. 6 000 à l'époque. Pour rien fait. Ils arrêtaient tout le monde, on était dans les prisons, on était à 10, 12 ans d'une cellule. Il y avait un monde, hein. Tous les cases étaient pleines. Il n'y avait plus de place. Alors, il y avait un lit. En principe, dans la cellule, il y a un ou deux lits. Alors, celui qui avait le lit, c'était le plus vieux. Puis tout le reste, tout couché par terre. On couchait par terre, hein. On était maltraités comme des bêtes, puis c'est tout, hein. Puis ça chantait dans la nuit, là, dans le travail. Puis les mineurs, ils avaient des anciennes chansons, c'était des révolutionnaires, là. Le temps des cerises et tous les bazars, toutes ces chansons, toutes les vieilles chansons de révolutionnaires, hein, eux savaient tout. Moi j'étais jeune, je vous dis j'avais 21 ans. Alors j'écoutais, puis c'est tout. Hein. Dans la nuit, ça faisait des lugubres. Hein. Et les gens du dehors, ils venaient écouter. Hein. Ils venaient autour de la prison écouter.
Ça, c'est quoi?
L'extrait du registre d'écrou. Comme quoi il a été en prison. Alors, c'est daté le 18-11-48 jusqu'au 18-2-49. Alors, là-dessus, c'est marqué.
La cour d'appel de Douai entrave à la liberté du travail et au bon fonctionnement des houillères nationales. Alors, peine de 3 mois de prison et 6 000 francs d'amende.
Et vous avez été nombreux comme ça à être licenciés, vous, où vous travaillez?
Il y en a deux. Lui, il a été repris, mais moi, je ne l'ai pas toujours repris. Dans le fond, je suis plaisant bien. Il suis encore là, parce qu'ils sont tous partis. Il ne reste plus que des veufs. Moi, je n'ai pas travaillé beaucoup, j'ai travaillé que 6 ans. J'ai fini ma carrière à l'UZ. Mais une dame qui avait 40 ans, et puis plus, c'est pas ça, vous savez, ceux-là. Il y a longtemps qu'ils sont morts, puis ils n'ont pas eu rien. Ils ont traîné la misère, pas de boulot. Ils avaient l'ordre de ne pas les embaucher, hein. Même les entreprises.
Les usines privées et tout.
Pas vrai, il n'y a pas de boulot, puis c'est tout. Plus de maison, plus rien. Attention, j'ai mon frère qui m'a hébergé, hein.
Plus de couverture sociale.
Plus rien du tout, hein. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait grève. Pour défendre mon pain, c'est tout, ma tartine, comme on dit à l'époque.
Mémoire de la grève de 1948 dans les houillères, on a entendu, c'était pas seulement dans le bassin minier de Lens, c'était aussi dans d'autres lieux de mines en France. Mais ce qui est intéressant, c'est la personnalité probablement de Jules Moc, le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était quelqu'un qui avait fait partie du Front populaire, qui avait dénoncé les accords Hitler-Staline, qui n'avait pas voté lorsqu'il était député envers Pétain, un homme qui avait été dans la résistance. Donc c'était plutôt un homme de gauche, droit, bien, etc. Mais lorsqu'il est ministre de l'Intérieur en 1948, il est gagné par cette idéologie qui s'installe très fortement dans le pays et dans la classe politique, qui est la lutte contre le communisme. Et tout ce qui peut, de près ou de loin, être soupçonné d'un lien avec l'URSS, ce qui explique probablement la grand-peur de la classe dominante en France et la violence invraisemblable de cette répression qui consiste en infraction totale vis-à-vis de la loi à faire licencier près de 3000 mineurs.
Et vous êtes rentré à la mine à quel âge ?
À 14 ans. Mon père était déporté pendant la guerre. Mmh. Mon père était déporté à Huy, en Belgique. Pour faire grève aussi. D'ailleurs, en 1941, j'étais à la grève des mineurs avec les Allemands. Hein. Il a été déporté à Huy, en Belgique. Et il est revenu 3 ans après. Alors comme j'étais le plus vieux de la maison, j'ai parti à la mine. Pour élever la famille, ils sont trois frères. La mine, c'est que vous commencez au triage. Vous savez, le charbon, il est sur une trémie, puis vous enlevez les cailloux. Et après, on vous fait descendre au fond, comme galibot. Il faut vous rouler les barreaux, vous apporter le bois, vous donner un coup de main aux ouvriers. Et après, normalement, à l'âge que j'avais, je faisais un stage pour être ouvrier. Alors, puis j'étais à la greffe et j'étais fini, quoi. De 44 à 48, on a donné du charbon, on a travaillé jour et nuit, même le dimanche et compagnie, pour soi-disant remonter la France. Mais eux, ils nous ont pas remonté, ils nous ont cassé par terre. De 44 à 48, c'était la bataille du charbon. Oh là là, ça y allait, la manœuvre. Les ouvriers étaient cinglés. On était fous. On travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait tous les jours. Alors, le dimanche, un jeune homme, il voulait pas travailler le dimanche, hein, rendez compte. Alors, c'était terrible, hein. Bah. Vous savez, dans le temps, on voyait que ça, on voyait rien d'autre, mais tout le monde allait travailler à la mine. Hein. Et notre frère était mineur comme moi. Il a été à la mort. Tout a tombé sur lui.
La mine s'est effondrée ?
La voûte minière s'est effondrée.
Et sa compagne est mort. Lui, il n'est pas mort. Ah ouais, parce que la mine, c'est ça. Hein. Le charbon, il est enlevé. Il y a un toit où vous mettez des bois. Et les bois, ils pètent, les bois, ils pètent, tic, tic, tic. On a remis un autre en dessous, puis tout, hein. Puis c'est dangereux, mais vous y pensez pas. On dit, ah, ça a bougé, là. Hop, on a remis un bois, puis c'est tout. Faut l'eau être cinglée pour y aller. Mais les gauches, là, on n'y pensait pas.
Ils rêvent de la mine toutes les nuits, toute la nuit, il en rêve. Hein.
Je vois les bois qui cassent. Vous entendez le bois qui claque, un bois comme ça qui pète. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez un plus court, puis vous mettez à côté. Vous faites pas attention. Mais il est dans le lit. Je
pense. Il attrape mon bras.
Pour pouvoir empêcher le toit de tomber. C'est un toit qu'il y a au-dessus. C'est de la terre, mais c'est un toit. Hein. Alors, ouais. Ouais. Et quand un coup, j'avais passé le conseil de révision. Et puis, j'ai fait la fête 3 jours. J'ai pas travaillé. Le jour que j'ai repris, pour eux, me dit, si tu veux, tu vas rattraper tes jours. Alors, j'ai travaillé de nuit, et sur une quinzaine, j'ai rattrapé mes 3 jours. Mais, je dois vous dire que là, j'ai eu les poètes-poètes, hein. J'ai tout vide dans la mine. Vous voyez le fond, là-bas, si un jour que ça se met à péter d'un seul coup, vous êtes écrasé. C'est là, il va arriver, ça. Alors, un coup, il me dit, alors, ça a été, et en tout cas, il dit, même si je loupe des jours, plus jamais j'irai de nuit. Oh là là, j'avoue les chocottes. Et puis j'étais des piles. Et des pilas, ce qu'on appelle ça. Mmh. Hein. Alors, il déclenchait, puis il fallait que j'allais chercher les bois pour pas les perdre. Alors, péter. Oui. Si j'ai pas fait dans mes culottes, j'étais tout juste, hein. Faut voir le travail, hein. Il faut le voir pour le croire. Ben, il y allait quand même. Il fallait aller chercher le bois, là. J'en ai fait. Parce que si on perdait un bout de bois, on avait une amende. Hein. Il faut la retrouver. S'il y avait 4 bois, il faut la retrouver. Et le porion est passé, ou bien le surveillant. Ah, il manque un.
Ah. Et ça se faisait de nuit.
Toujours de nuit.
Ah oui, d'accord.
Mais pourquoi il faisait ça?
Pour rattraper le bois, puis avancer. Ben, vous savez, j'étais pas rigolo. Hein. D'abord, il fallait être saoul pour faire ce qu'il faisait. Et le gars, il était saoul. Qui travaille avec moi. Ah ouais, ouais. Quand il faut y aller, c'est comme à la guerre. Hein. La guerre, quand vous êtes à la guerre, il faut y aller, ben il faut y aller. Hein. Ah ouais.
T'es tôt là comme une montagne bien à plage, tes faux aux parties et nos paysages. Nous périors aux pincées que je t'éris, par un beau jour ils seront évanouis. Par mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Par mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Quand j'ai au gosse, je grimpe au chutin d'eau. S'il y a vos pas de garde, vite un cheval filo. Parmi chéral, chez aiguillage, chez beau. Tout le fourbi qui traîne au chuche-carreau, et un grimpeau tout en haut dans la poussière, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Et un grimpeau tout en haut dans la poussière, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. T'es tôt un témoin de l'ouvrage et de nos pères, qui ont ouvré tout le vie et sous le terre. Pour te construire, y a fallu plus de 120 ans, et ravi, ça ne parle plus de tien, rien de temps. T'es parti rogné par chez Bulldozer. Je te dis adieu, ma vieux Terry de Rimbert. T'es parti rogné par chez Bulldozer. Je te dis adieu, ma vieux Terry de Rimbert.
Bon, je m'appelle Thiénot Grimbach et je suis avocat. Pour refaire rapidement cette historique, je vous dirais que la Halde avait été saisie par M. Georges Carbonnier, qui avait regroupé un certain nombre de familles, 18 familles de mineurs, des survivants et des ayants droit, c'est-à-dire leurs épouses ou leurs enfants, pour faire reconnaître le fait qu'ils avaient été licenciés pour fait de grève et que c'était une discrimination. Il a saisi la Halde et il a voulu... que ceux qui avaient été traités comme des chiens alors qu'ils avaient tant donné, tant pendant la résistance qu'après, qu'ils puissent être reconnus comme ayant été ce qu'ils avaient été, c'est-à-dire des hommes debout, des hommes de lutte, des hommes de qualité, des familles qui ont été décimées, brisées, abîmées par cette affaire.
Voilà, au départ, donc, il y a Georges Carbonnier qui se lance dans cette démarche pour obtenir justice. Comme le dit Thiénot Grimbach, avocat fameux, mais il n'était pas seul dans cette affaire. Il n'est pas seul dans cette affaire, parce que vous avez compris que ça n'est pas terminé. Il y a quatre autres avocats qui sont financés par l'aide juridictionnelle. Donc c'est vraiment, un engagement militant. Pour, vous avez compris, une cause superbe. Et le combat n'est pas terminé. Il y a eu une victoire d'étape très importante en mars dernier. Mais le combat continue.
Ce qui s'est passé dans cette affaire de la grève de 48 est absolument incroyable. Il faut se rappeler qu'en 41, c'est la première grande grève patriotique contre l'occupant nazi. Elle se déroule dans les départements du Nord-Pas-de-Calais, soumis à l'administration militaire allemande. C'est pas Vichy, c'est pas l'occupation, c'est l'administration directe de l'armée allemande, sous commandement militaire de Bruxelles, qui est présent et qui fait régner la terreur nazie. Donc en 1941, la grève se déclenche pour le pain et la liberté, sur tous les carreaux de mine. Et on fait intervenir l'armée, 3000 licenciés, 600 envoyés en camp de concentration, 50 survivants. Pour trouver ces 3000 personnes, on envoie des porions, des ingénieurs de production, des contremaîtres, avec des listes qui avaient été communiquées par les renseignements généraux à l'armée allemande, et on fait l'appel de tous les militants de la CFTC, l'ancienne CFTC, le syndicat chrétien, et de la CGT, qui sont là sur place, et les membres du Parti communiste, tous les militants, les gens qui sont engagés dans les luttes. Et comme ça, on en fait remonter 3000, qu'on prend un par un dans le fond des mines, avec cette répression terrifiante. À la libération, le général de Gaulle et Maurice Thorez disent « Retroussez vos manches, il faut rattraper la production ». Et les mineurs sont là, présents. En 2 ans, ils rattrapent la production de 1939. En 2 ans. Malgré toutes les destructions qu'il y a eu, ils font un effort considérable. Et ils le font parce qu'on leur a aussi restauré une part de dignité par le statut des mineurs, qui crée des relations du travail nouvelles avec des délégués mineurs, avec la présence du syndicat, avec la dignité retrouvée dans l'organisation de la production. Et le gouvernement d'alors, malheureusement dirigé aussi par des socialistes, décide de remettre en cause le statut des mineurs, qui était considéré comme la compensation des efforts et la reconnaissance de tout le travail qui avait été fait par ces mineurs pendant toutes ces années de lutte contre l'occupant, mais aussi de lutte pour la production. Donc la grève se redéclenche exactement comme en 1941, carreau des mines par carreau des mines. Et du coup, on leur envoie à l'armée. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'est né le mot d'ordre CRSSS. C'est les mineurs qui, eux, se rappelaient. Évidemment, ils n'ont pas inventé CRSSS par rapport au CRS. Ils l'ont inventé par rapport à leur précédente grève, parce qu'on a fait exactement la même chose. Ils sont descendus dans les carreaux des mines, avec les listes également, de nouveau les renseignements généraux. On redonnait les noms des militants, de ceux qui avaient été dans les FTP, de ceci, etc. Et de nouveau 3000 licenciés, et de nouveau la répression, et de nouveau des gens envoyés en prison pendant, etc., etc. Donc, voilà, c'est ça, cette histoire. Et Georges, lui, ce qu'il voulait, c'était que soit reconnu ça, qu'il s'était battu pour quelque chose et qu'on n'avait pas le droit de leur faire ce qu'on leur avait fait.
Actualité française, 28 octobre 1948.
Voici 3 semaines déjà que la production française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Et la décision prise par les grévistes de ne plus assurer les services de sécurité aggravait encore les effets de ce mouvement. Le gouvernement se voyait alors contraint de prendre des mesures d'ordre afin de faire assurer par des spécialistes requis l'entretien des mines, vital pour l'avenir de la production française. Malheureusement, de nombreux heurts se produisaient dans diverses régions entre grévistes et forces de police. À Béthune, une manifestation organisée devant la sous-préfecture menaçait de prendre un tour tragique.
Y arrive.
D'accord.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes toute jeune, vous?
Oui.
Vous entrez dans la vie.
89 ans, il a monsieur Norbert Gilmet, et il est un des protagonistes de cette histoire qui vient d'être évoquée par Thiénot Grimbach, l'un des avocats, et il nous raconte vraiment de l'intérieur ce qu'il a vécu et ce qu'ont vécu ces milliers de mineurs en 1948.
Là, on se trouve à la mairie de Grenay, c'est ça?
Oui, Grenay. Je ne peux pas recevoir chez moi. Ma femme est restée totalement traumatisée avec la répression que nous avons subie à la grève de 48. Et on ne peut pas parler de ces événements sans qu'elle soit malade pour quelques jours. Puis elle se met en colère. Nous étions trois camarades de la CGT qui avaient été licenciés ensemble de Mazingerbe. Mais c'était les trois secrétaires de la section communiste de Mazingerbe. Moi, j'étais employé administratif. Donc, j'ai redemandé de retravailler en perception. On a embauché, mais on ne m'a jamais répondu. On a été expulsé du logement et ma femme était enceinte, puisque ma fille est née le 14 mars 1949. Alors, femme enceinte ou pas, et sans relogement, sans rien, hein, du jour au lendemain.
Vous êtes allé où, alors?
Je suis allé chez ma belle-mère, dans un baraquement. Nous, on a eu des dettes. Moi, j'ai eu des dettes qui sont échelonnées, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et je n'ai jamais terminé parce qu'il y a un commerçant qui m'a dit « Bon, on ne compte plus, je ne veux plus te voir. » Je ne sais plus ce que je lui devais à l'époque.
Vous aviez des dettes auprès des commerçants?
Bien sûr. Comment voulez-vous vivre sans travail, sans salaire? J'ai été embauché deux fois comme terrassier. Et une demi-heure après, on me disait « Les mines ne veulent pas qu'on t'embauche. » Alors je vais commencer le travail, une demi-heure après, hop. Ah, aussitôt qu'ils étaient prévenus par un garde ou par quelqu'un, par un ouvrier, force ouvrière, parfois. Ah oui. Alors, en 52, donc, c'est là que je suis entré à la tribune des mineurs. Je n'avais plus de draps dans mon lit. Et j'avais encore des dettes.
La grève, alors, elle a débuté quel jour, vous vous souvenez?
Le 4 octobre 1948. Sur 259 204 mineurs, 94% ont participé au vote. Et c'est à 89-70% qui se sont prononcés pour la grève.
Pratiquement 90% des mineurs étaient pour la grève.
Oui, oui. La grève est partie sur les revendications de salaire. Mais surtout, une des principales raisons, c'était les circulaires et décrets de Lacoste. Lacoste était ministre du Travail. On avait enlevé la gestion des maladies professionnelles et des accidents du travail aux sociétés de secours minières pour le remettre au patron. C'est le patron qui décidait si l'ouvrier était silicosé et s'il fallait le remonter à la surface. Voilà ce qu'il a fait, Lacoste. Et ça, c'est resté. Et nous, c'est le 26 octobre, si mes souvenirs sont bons, que l'armée est arrivée ici. On a occupé tout le bassin minier. Alors, on n'avait plus le droit de réunion, rien du tout. Hein. Moi, j'allais, mais très peu de temps hein, aux manifestations. Parfois, parce que moi, j'avais été chargé pour m'occuper du recensement, du classement des vêtements, chaussures, sous-vêtements qui venaient de partout pour aider les mineurs. Moi, c'était ma tâche pendant la grève. Et ensuite aussi, l'envoi de nombreux enfants qui ont été accueillis dans la région parisienne pendant 2-3 mois. On ne peut pas l'oublier, ils ont pris nos enfants pour nous aider dans la région parisienne. Hein. Tous les pays qui ont envoyé des vivres, des vêtements, qui ont envoyé de l'argent, de la Pologne, de l'Angleterre, de l'Amérique, d'Afrique, d'Italie, Pietro Nenni, hein, le socialiste Pietro Nenni qui a condamné le gouvernement français aussi. Il y a eu tout ça, il y a eu la reine d'Angleterre qui a pris un enfant, la reine de Belgique, je m'excuse, je dis d'Angleterre, c'est de Belgique qui a pris un enfant. Les prêtres qui soutenaient les mineurs, les artistes, les footballeurs. Au Racing Club de Lens, il y a eu un match au profit des grévistes partout en France. Les boxeurs, Humez, partout. On a eu un mouvement de solidarité, je crois, qui n'a jamais été égalé. Mais la presse, elle faisait le silence total. Il n'y avait que la presse communiste. Mais toute l'autre presse, elle faisait le silence total là-dessus. Elle soutenait le gouvernement, elle décrédibilisait les grévistes, oui. On a parlé de l'argent de l'étranger, Hein, les mineurs étaient soutenus par l'argent de l'étranger. Ils faisaient une grève insurrectionnelle payée par l'étranger. Oui, payée par Moscou pour créer une démocratie populaire comme dans l'Est. Hein. La grève insurrectionnelle, alors on était vraiment devenus des hors-la-loi. Hein.
Témoignage de Norbert Gilmet, on le retrouvera dans la suite de ces reportages de Charlotte Perry, mais vous connaissez la maxime, si tant que les moutons n'auront pas d'historiens, c'est les loups qui raconteront l'histoire. Pour l'instant, c'est les loups qui racontent l'histoire, c'est les loups qui poursuivent les mineurs devant la Cour de cassation, mais il y a d'autres historiens quand même, comme Pierre Outéric.
Donc vous, Pierre Outéric, vous êtes historien ?
Depuis une trentaine d'années, je me suis intéressé à l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement populaire, et naturellement dans le Nord-Pas-de-Calais, à celle des mineurs. Les mineurs ne se sont jamais battus pour demander le changement de gouvernement. Les mineurs ne se battaient pas à l'époque pour demander que les communistes reviennent au gouvernement. Les mineurs ne se battaient pas pour demander que la France s'aligne sur les positions de l'Union soviétique. Voilà, soyons clairs. Que parmi un certain nombre de gens, il y avait ça dans la tête, c'est possible. Lorsque Le Coeur va demander...
Qui était Le Coeur ?
Le Coeur, Auguste Le Coeur, était un des hommes politiques les plus importants du Pas-de-Calais à l'époque, dirigeant du Parti communiste, président du syndicat des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Et il avait une très grosse influence ici dans la région lensoise. Il avait été maire de Lens jusqu'aux élections de 1947. Il était député, donc c'était quelqu'un de très important. Et lorsque Auguste Le Coeur va demander... aux ouvriers de l'usine Carbolux de Bruy-la-Bruxière d'arrêter la production, il sait très bien que s'ils arrêtent, l'usine est foutue. Ce type d'usine, lorsque vous arrêtiez, tous les fours étaient foutus. Et là, la réaction des travailleurs a été très claire. Si on arrête, on n'a plus d'usine. C'était le prétexte choisi, présenté, excusez-moi, sur un plateau pour l'affrontement. Parce que c'est vrai, il y a eu la présence de l'armée. Il y a eu des mineurs qui ont été tués. Il y a eu plus de 3000 mineurs arrêtés. Il y a eu des mineurs qui ont perdu le boulot toute leur vie. Et il faut attendre aujourd'hui pour qu'ils retrouvent leurs droits. Mais l'affrontement global n'a pas eu lieu. Je suis persuadé qu'au gouvernement, certains auraient aimé plus. Alors, il y a un enjeu politique majeur, c'est de briser d'une façon ou d'une autre ces forteresses ouvrières, et en particulier ce bassin minier, dans lequel le Parti communiste est implanté, dans lequel il y a un affrontement très dur depuis 1920 entre socialistes et communistes dans les villes minières, y compris jusqu'à aujourd'hui, et aussi de briser la Fédération des travailleurs du sous-sol, qui est un des syndicats majeurs de la CGT à l'époque. Je crois que fondamentalement, il y a cette idée de briser, d'en profiter pour briser pendant un certain temps le mouvement. Et il faudra attendre 15 ans pour voir la communauté minière, la corporation des mineurs se relancer dans un grand mouvement d'envergure. Donc c'est pas rien, 15 ans. Et donc, cette répression va laisser des traces.
Devant un tel développement de la situation, le gouvernement arrêtait des mesures exceptionnelles pour rétablir la liberté du travail et assurer la sauvegarde de notre industrie.
Actualité française, 28 octobre 1948.
Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient. Saint-Étienne, cependant, les grévistes cégétistes, désavoués par leurs camarades des deux autres centrales syndicales, passaient à la contre-attaque et attaquaient les CRS à coups de pierres, de boulons et de barres de fer. Devant l'attitude très ferme du gouvernement, attitude qui peut cependant, suivant le développement de la situation, laisser place à la conciliation, certains mineurs semblaient désireux de reprendre le travail. Le spectacle des mines abandonnées ne doit plus être dans un proche avenir qu'une triste rétrospective. C'est pour la France, et pour la France tout entière, une question de vie ou de mort.
Il y a eu la loi d'amnistie en août 81. On ne peut plus faire état, nous avons été emprisonnés. Hein.
Norbert Gilmé, 89 ans, ancien mineur, licencié en 1948.
Mais le déshonneur qu'on m'avait fait de me considérer comme mauvais Français, qui était destiné au camp d'internement en cas de guerre, cela, on ne l'a pas effacé. En 1957, 9 ans après la grève, je reçois mon fascicule de mobilisation. Je devais encore être service armé. J'avais une notation sur mon fascicule de mobilisation, maintenu dans ses foyers à la disposition de l'autorité militaire.
Qu'est-ce que ça veut dire alors ?
Je l'ai demandé aux gendarmes pour confirmation, qui m'a porté cette pièce que j'ai toujours. J'ai demandé aux gendarmes, les gendarmes m'ont dit ben, « Tu restes, en cas de guerre, de mobilisation, tu restes sagement chez toi. » Moi, je connaissais très bien les gendarmes. « Et nous, on vient te chercher pour le camp d'internement. » Et pour les autres, en 1978, le docteur Verskel, qui avait été condamné, il avait soigné un blessé. Malgré cela, le docteur Verskel avait été condamné à 4 mois de prison. Et en 1978, au colloque de la CGT, il avait déclaré « J'ai été rayé de l'ordre des médecins pendant toute une période. Ensuite, j'ai été dégradé d'officier de l'armée. On l'a convoqué à Arras et on l'a dégradé. » Et il n'est pas le seul. Rebouillat avait été dégradé. Rebouillat était délégué depuis 6 de Béthune, ici à quelques kilomètres. Et ça, c'est sa femme qui, en 2009, je crois, seulement en 2009, m'a dit que M. Rebouillat était caporal dans l'armée, il avait été dégradé. Et aussi Aimable Duhamel, ils ne l'ont jamais dit. Alors Aimable Duhamel, c'est typique, j'ai été dans la maison syndicale 20 ans avec lui, à travailler par la suite. On avait parfois une petite réception, on rappelait ses souvenirs, on reparlait de la grève, etc. Jamais, jamais il n'a dit qu'il avait été dégradé de l'armée. Les camarades l'avaient gardé au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes. Ils se sentaient déshonorés, comme l'a dit le fils de M. Rebouillat dans une lettre. Je suis persuadé que les résistants ici, comme Arthur Éloi et de Grenet, Rubrec, qui étaient des lieutenants des FTP, Paul Viscard, qui a été licencié, qui était capitaine FTP, je suis persuadé qu'ils ont tous été aussi dégradés, mais on ne l'a jamais su. Ils sont morts, on ne l'a jamais su. Et c'était la suite de la grève. On avait dégradé nos camarades qui avaient un grade dans l'armée. Et nous, on nous considérait comme mauvais Français, dangereux, donc camp d'internement.
C'était la grève des mineurs de 1948, une nouvelle diffusion d'un reportage de Charlotte Perry du 14 juin 2011. Merci à Daniel Amigo, à Tino Grimbach et à Maître Slim Benachou. Merci à Norbert Gilmé et Pierre Autéric. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Charles Danet et Fabien Laléouze, réalisation Bertrand Chaumeton, assistante Marina Touyez. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour Julie de Tabac Info Service, je vous écoute.
Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais arrêter de fumer. J'avais déjà arrêté pendant ma grossesse, mais après, avec la fatigue, le stress...
Vous avez recommencé.
C'est ça. Et maintenant, je voudrais arrêter pour de bon, pour mon fils surtout.
Arrêter pour votre enfant, c'est déjà une très bonne motivation. Mais vous avez peut-être des raisons d'arrêter pour vous aussi. Si vous voulez, on peut travailler ensemble là-dessus.
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
France Inter, il est 16h. Les informations, Audrey Tison.
Les Restos du Cœur lancent un appel à la générosité. L'association a besoin de 5 millions d'euros en plus pour la campagne d'hiver. Elle doit répondre à une demande en hausse de 5 à 8% des personnes qui n'arrivent plus à se nourrir correctement. Les restos espèrent des donations publiques et privées. Le gouvernement n'a pas brisé la grève. Réaction de la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui se félicite de la reprise du travail à l'aéroport de Roissy. Quatre syndicats d'agents de sûreté ont signé un accord avec le patronat. Fatigués par 11 jours de conflit, ils se contentent d'une prime annuelle de 1 000 euros. Les deux autres syndicats, CGT et Sud, consultent leurs adhérents avant de signer ou non cet accord. Fin de grève également chez un sous-traitant de Marionneau à Courtabœuf dans l'Essonne. Les salariés ont débrayé pendant 12 jours contre la fermeture de la plateforme et la suppression de 75 emplois. La grève commençait à peser sur les salaires, ont expliqué les syndicats. Il s'agit manifestement d'un règlement de compte, un de plus à élucider pour la police judiciaire de Marseille. Elle enquête sur la mort de 3 personnes. Leurs corps ont été retrouvés calcinés cette nuit dans une voiture en feu au Pennes-les-Mirabeaux. Des autopsies sont en cours. La France refuse d'arrêter Florence Hartmann, l'ancienne porte-parole du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt de ce même tribunal pour outrage à la cour. Elle avait publié des informations mettant en cause l'objectivité du tribunal. Paris estime que la France ne doit arrêter que les personnes accusées de crimes graves par ce tribunal. En Syrie, la ville de Homs, de nouveau bombardée ce matin. Bilan, une 20aine de morts. Dans ce contexte, Paris réclame la venue dès cet après-midi d'observateurs internationaux. Observateurs qui se trouvent déjà à Damas. Une 10aine d'entre eux a prévu de se rendre seulement demain à Homs au lieu de la contestation contre le régime. Football, Djibril Cissé reste à la Lazio de Rome. L'attaquant français a pris la parole pour mettre fin aux rumeurs. On l'annonçait de retour à Auxerre, son club formateur. Le parc naturel régional des Ardennes, officiellement créé, l'information est parue au journal officiel juste avant Noël. Il s'étend sur 116 000 hectares et regroupe 91 communes du nord du département. Ce parc doit donner une nouvelle attractivité à ce territoire, rappelle la ministre de l'écologie. Et puis au lendemain de Noël, ne jetez pas vos sapins dans les poubelles classiques. Il vaut mieux se rendre à la déchetterie ou dans un des points de collecte prévus à cet effet. Il y en a une centaine installés dans les jardins de Paris. Seuls les arbres naturels sont acceptés, débarrassés de leur décoration. Il est 16h03 sur France Inter. Place à la musique avec vous, Frédéric Lodéon.
Bonjour Audrey, bonjour. Bonjour. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé quelques bons moments durant ces fêtes de Noël ou sinon que vous pourrez vous rattraper prochainement. Et puis encore, évidemment, la nouvelle année, voilà, des moments qu'on espère joyeux, plus heureux pour certains qui ont eu des difficultés. Nous sommes de tout cœur avec vous, bien sûr. Donc une émission plutôt digeste, je veux dire, après ces agapes supposées, quelques-uns ont forcé leur nature, je sais, ils sont encore en train de digérer. Donc alors une petite danse, voilà, pour se dégourdir les pattes, j'allais dire les pinceaux. Il y a une musique brésilienne qui est toujours touchante, c'est celle de Camargo Mozart Guarnieri. Et oui, il a pris ce nom-là, en tout cas ce prénom, Mozart Guarnieri, brésilien né en 1907. Eh ben, ça détend, ça ne prétend à rien, mais ça donne pas mal finalement. We'll be right back. danse brésilienne de Camargo Mozart Guarnieri, interprétée par le New York Philharmonic Orchestra, dirigée par Leonard Bernstein. Il aimait aussi Mozart, il s'appelle Karl Reinecke, compositeur, pianiste, chef d'orchestre allemand. Né en 1824, il a été, entre autres, le chef de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, ça n'est pas rien, bien sûr. Et j'ai dit, Mozart, il l'a servi de tout son cœur, il a su composer aussi, plutôt dans des petites formes, des choses charmantes. Voici, tiré des pièces fantaisistes pour clarinette et piano de Reinecke, la deuxième, presto. Presto, la deuxième des pièces fantaisistes pour clarinette et piano de Karl Reinecke, interprétée par Paul Meyer à la clarinette et Éric Lesage au piano. Antonin Dvorak ne manquait pas de fantaisie lui non plus, et il savait aussi s'inspirer des manières populaires, des thèmes populaires, des rythmes aussi. Et un ami violoniste lui a commandé directement un quatuor qui devait être slave, d'une couleur slave en tout cas. Il avait spécifié, c'est Jean Becker, non pas le cinéaste, mais premier violon du quatuor à cordes florentin. Et Dvorak s'est plié avec beaucoup de plaisir à cette demande, parce que lui-même avait des tendances évidemment à se pencher vers les airs populaires, les airs moraves par exemple. Il avait gagné une popularité importante grâce à ses chants moraves et puis à ses fameuses danses slaves aussi. Voici un peu de l'Allegro assai du quatuor mi bémol d'Antonin Dvorak.